Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley. Nous sommes le jeudi 1er juillet, journée officielle du déménagement, journée officielle de la fête du Canada et journée officielle où Bobby Bonilla reçoit son chèque de paye. Et je suis en compagnie, comme toujours, de Arpin Basu. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine.
Bon, comment vas-tu? Alors, ça va bien. On écoute, c'est une longue journée. C'est une longue journée qui dure depuis environ 6 semaines.
Oui, c'est ça. C'est un jour,
c'est le feeling
jour
que j'ai.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est drôle que tu mentionnes Bobby Bonilla. Les Mets ont commencé à aimer ce jour-là. Il était tout le temps une blague au dépens des Mets de New York que Bobby Bonilla reçoit encore une chèque de paye, mais je vois que chaque 1er juillet, puis ils l'ont fait aujourd'hui encore, ils font un petit feature avec lui. C'est même commandité à ce moment-ci.
Où, faut bien qu'ils se financent.
C'est commandité par Airbnb, leur annonce du Bobby Bonilla Day. Mais en tout cas, c'est drôle. Mais oui, c'est effectivement beaucoup de jours le 1er juillet. D'habitude, c'est la journée des joueurs autonomes dans la Ligue nationale. Mais là, on était en plein milieu de la finale de la Coupe Stanley. Puis on a beaucoup de choses à discuter concernant les deux premiers matchs qui ont eu lieu à Tampa, deux matchs quand même assez différents, mais deux résultats très similaires dans le sens où le Lightning de Tampa Bay arrive à Montréal avec une avance de 2-0 dans la série. J'aimerais avoir tes impressions sur l'état des choses au niveau du jeu du Canadien. C'est évidemment, ils ont joué beaucoup mieux au deuxième match, mais c'était quoi tes impressions, tes premières impressions de la façon qu'ils ont joué?
Ben, j'ai trouvé que De manière générale, j'ai trouvé que le volume de lancers du Canadien était pas nécessairement un reflet de la qualité des menaces qu'ils ont dirigées vers Andrei Vasilevskiy. Je parle évidemment dans le deuxième match. C'est 43 lancers, fait que le volume est impressionnant, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de situations où les défenseurs du Lightning et même le repli des attaquants a fait en sorte que soit que les attaquants du Canadien arrivaient au filet de Vasilevskiy menottés ou encore on les contraignait dans des angles de tir qui n'étaient pas super avantageux. Donc, il n'y a pas énormément de chances très dangereuses qui ont été que le Canadien est allé chercher. Quand même, il y a des situations que visuellement, c'est des chances dangereuses, mais les tirs ont raté le filet. C'est clair que si le Canadien, Paul Byron disait après le match, on a fait beaucoup de bonnes choses, on a bien joué, puis si on continue de la sorte, on va être récompensé, on a juste besoin de jouer un petit peu mieux. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure le Canadien va être capable de percer cette muraille-là et de générer plus de chances à partir de cette possession-là qu'ils ont été capables de générer, puis de garder autant de possessions de rondelles dans les prochains matchs qu'ils l'ont fait hier. Parce que ça a été clairement à leur avantage hier, sauf que combien de temps ils vont être capables de garder le Lightning en respect de cette manière-là? Moi, ça m'inquiète. C'était vraiment un match où le Canadien aurait dû sortir de là avec une victoire, il ne l'a pas fait.
Je suis d'accord que, au fur et à mesure que le match avançait, que les chances étaient de moins en moins de qualité. Mais je trouvais quand même qu'en première période, puis même en début de deuxième, ils ont quand même généré des chances qui étaient intéressantes. Tu sais, il y avait dans les premières minutes du match, Nick Suzuki avait quasiment une échappée, presque une échappée. C'était pas clean comme échappée, mais quand même, il s'est rendu au filet. Seul Vasilevskiy a pu harponner le disque à cause du fait qu'il y avait une pression arrière de là. Il y avait une 2-contre-1, Suzuki et Caulfield. Même chose, Chernak a fait un super beau jeu défensif là-dessus, puis a pas donné beaucoup d'options à Nick Suzuki, ni d'un tir, ni d'une passe, puis finalement, c'était même pas une chance. Tyler Toffoli, juste avant ça, avait un autre quasi échappé, c'était pas full clean, mais encore une fois, c'était un beau jeu de Chernak de revenir dans sa zone. Pour un gars qui est méchant et gros, là, le gars, il bouge. Hein, Chernak, là, il est assez mobile, puis ça n'a pas de bon sens que le Lightning a quand même échangé Ben Bishop au deadline, tu sais, comme une location, si je me rappelle bien, là, un joueur de location. Puis ils ont reçu ce gars-là en retour. Oui. C'est quand même un échange assez hallucinant. Puis je me rappelle l'année passée, j'étais dans la bulle à Edmonton, puis je couvrais la troisième et quatrième ronde avec Thomas Drance. Puis à un moment donné, pendant la troisième ronde ou peut-être pendant la finale, Thomas Drance m'a regardé et dit, tu sais, tout le monde parle de faire des offres hostiles envers Sergachev ou Sorelli ou qui que ce soit. Tu sais, c'est Chernak qui gérait avec une offre hostile. C'est ça le gars qui peut pas se permettre de payer comme il y a de l'allure. Puis la façon dont il joue dans cette série puis dans les séries en général, je pense que notre collègue, M. Drance, avait bien raison. C'était un gars qui aurait pu être ciblé, mais en tout cas, ça c'est un autre point. Mais tout ça pour dire que le Canadien avait des chances tôt. Puis ça, c'est sans mentionner le 4 contre 3 qu'ils ont reçu en fin de première période, une opportunité en or que le Canadien a complètement gaspillé en termes de... Tu sais, je peux comprendre qu'une équipe... Tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais à l'entraînement souvent, là, 4 contre 3. C'est pas quelque chose que tu discutes très souvent. C'est une situation qui est très rare, encore plus rare en série, encore plus rare en finale de la Coupe Stanley. Mais quand même, d'envoyer Gustafsson et Weber avec Suzuki et Toffoli, d'accord, je peux être d'accord avec cette situation-là, mais la façon que les joueurs étaient placés sur la glace, tu sais, Weber était souvent très loin du filet. Tu penserais que tu le mettrais dans une position... Il était comme dans les quatre coins de la zone offensive. Au lieu de se placer dans une formation où il serait capable, tu sais, plus un diamant qu'un carré... C'est une opportunité en or qui vous pouvez pas se permettre de gaspiller. Puis même en deuxième période, ils ont commencé la deuxième période en jeu de puissance. Puis Nick Suzuki avait une autre excellente chance dans l'enclave, très proche du filet de Vasilevskiy. A pas pu le convertir. Alors après ce jeu de puissance, ses tirs au but étaient 15-6 Montréal. Et il y avait plusieurs opportunités que je viens de mentionner que le Canadien aurait pu prendre l'avance. Puis le fait qu'ils n'ont pas été capables de convertir un de ces chances-là, sinon deux, mais au moins un, fait vraiment mal en finale. T'avais comme l'impression que même si le Canadien jouait très bien, ils allaient être punis à cause de ça parce que tu peux pas laisser partir des chances après des chances après des chances, puis que le match reste 0-0, c'est comme évident que le Lightning va marquer le premier but rendu là.
Oui, absolument. Ben, écoute, c'est clair que le 4 contre 3 est un point tournant dans le match. J'ai fait des recherches. Ça se peut-tu que les Canadiens n'aient pas eu un seul 4 contre 3 cette saison, en saison régulière? C'est parce que la source statistique où j'ai cherché semblait signaler que cette année, ça n'avait pas été le cas. Le Canadien est l'une des nombreuses équipes de la Ligue à ne pas avoir marqué de but à 4 contre 3 cette année. Mais écoute... Il y avait des jeux qui semblaient dessinés, qui semblaient être faits de manière à soit à créer des tirs sur réception ou encore il y avait un moment où Toffoli s'est retrouvé à l'embouchure du filet pour tenter une déviation sur un tir-passe. Il y avait des patrons de jeu qui étaient intéressants, mais j'ai trouvé que, tu mentionnes, c'est sûr que le personnel y est pour quelque chose. Je pense que Cole Caulfield aurait été le gars tout indiqué pour jouer dans cette situation-là. Mais il y a aussi, tu sais, c'est la manière simplement dont leur boîte bougeait. Les gars faisaient des permutations, mais ça demeurait une espèce de carré très statique. On ne tentait pas de passe à travers l'enclave. Il y a seulement Gustafsson qui, à un moment donné, a décidé de piquer puis de traverser l'enclave pour essayer de casser un petit peu le triangle défensif du Lightning puis de créer un petit peu de chaos. Mais tu as une opportunité, tu as 4 minutes d'avantage numérique aussi, tu sais. En fin de première période, puis tu n'arrives pas à créer quelque chose de plus convaincant. Il n'y a aucun doute là-dessus que ça a été un point tournant dans le match. Puis ça... Mais écoute, cela dit, le Canadien a été dans le coup, même après que le Lightning ait marqué un but, il est revenu de l'arrière, et puis à 1-1, tout fonctionnait. T'sais. Alors je pense que c'est juste que ça montre quand tu, face à une équipe qui est tellement opportuniste, si toi, tu manques le moindrement d'opportuniste et que tu leur ouvres la porte, les Canadiens n'ont pas fait énormément d'erreurs hier, mais à chacune de ces erreurs-là, il y en a deux grosses et... Je dirais deux grosses et une plus petite dont le Lightning a profité. Évidemment, la plus évidente, c'est celle de Joel Edmundson. Une remise derrière le filet qui manquait vraiment de vigueur puis sur laquelle André Palat a sauté. Sur le but gagnant, le deuxième but du Lightning, deux erreurs pour le prix d'une. Philippe Dano qui aurait dû envoyer la rondelle dans les dernières secondes de la période, tenir compte du cadran puis envoyer la rondelle en fond de territoire. Il ne l'a pas fait. Puis par la suite, ben, tu as Ben Sherratt qui décide de s'interposer vers le porteur de la rondelle à la ligne bleue, mais il le fait de façon un peu mollassonne. Puis finalement, il s'est compromis, mais sans le faire de façon très efficace, puis ça a créé un surnombre. Alors ça a été des erreurs plus significatives. Puis sur le premier but, ça s'est peut-être passé un petit peu plus inaperçu parce que le Lightning a fait quand même une bonne installation en zone du Canadien dans les secondes qui ont suivi, mais le premier but du Lightning est à la source, a été créé par un revirement de Corey Perry qui a permis à Mikhail Sergachev de rentrer en zone du Canadien. Donc, tu sais, le Canadien n'a pas besoin de faire un festival d'erreurs. Il en crée juste quelques-unes ici et là, puis le Lightning est extrêmement opportuniste puis saute là-dessus. Fait que quand je parlais tout à l'heure d'une équipe qui se doit de très bien jouer, de jouer pratiquement du hockey parfait, ben je pense qu'on l'a vu hier parce que le Canadien a bien joué, mais encore là, ça n'a pas été suffisant. Puis je me demande, après avoir perdu autant de matchs contre le Lightning de Tampa Bay, de quelle manière cette équipe-là va être capable d'aller en gagner 4 des 5 prochains?
Oui, bien en fait, c'est ça que... C'est un peu ça que j'ai vu d'encourageant dans le jeu du Canadien après que le Lightning avait marqué le premier but du match. C'est que, tu sais, garder la position en zone offensive va pas nécessairement créer des... Tu sais, ils n'ont pas nécessairement créé beaucoup de chances, très dangereux, mais ça crée de la fatigue et ça crée la potentielle pour des erreurs pendant d'autres présences. Tu sais, c'est comme ce que cette équipe-là a besoin, c'est que l'équipe adverse fait beaucoup d'erreurs. Le Lightning a besoin de très peu d'erreurs pour tirer un avantage. Le Canadien a besoin d'en profiter de plusieurs erreurs pour être capable de marquer des buts. Alors, tu sais, le retour de Joel Armia, à mes yeux, était très significatif pour le Canadien. Son trio avec Stahl et Perry était le même qu'on avait vu avant son absence. Alors, ils ont eu plusieurs présences dans la zone offensive où ils ont pu jouer leur jeu, le cycle autour de la bande et juste passer du temps en zone offensive, fatiguer les défenseurs et les attaquants qu'ils affrontent du Lightning. Je trouvais que le trio de Kotkaniemi en a eu quelques-uns aussi. Mm-hmm. Sont les deux trios qui sont les plus physiques, avec le plus de gabarit, le plus de potentiel pour jouer ce type de jeu-là. Et ça pourrait, en théorie, profiter au trio de Suzuki, qui a connu quand même un très fort match, puis a connu très beaucoup fort de chance, mais surtout le trio de Dano. Pour eux autres, ils pourraient en profiter si les deux autres trios sont capables de créer ce temps-là en zone offensive pour effectivement avoir ces erreurs-là ou profiter de ces erreurs-là du Lightning qui est créé de ça. C'est vraiment... Tu sais, Dominique Ducharme qui en passant... On devrait souhaiter le re-bienvenue à Dominique Ducharme qui va revenir dans le giron de l'équipe. On est quel jour, là?
Jeudi.
Je suis désolé. Okay. On va revenir dans le giron de l'équipe. Ouais, tous les jours sont les mêmes maintenant. Dans le giron de l'équipe vendredi. Alors, re-bienvenue à Dominique Ducharme. Puis, mais tu sais, il parle souvent du fait que tout est lié. Tu sais, le jeu défensif est lié au jeu offensif. Le plus que tu es efficace en zone défensive, le plus que tu vas être dangereux en zone offensive. Mais alors moi, je trouve que les présences que les trios de surtout Stahl et aussi de temps en temps Kotkaniemi qui sont capables d'avoir ces présences-là, ça peut être lié à un certain déblocage de l'offensive des deux autres trios s'il réussit à fatiguer l'adversaire et passer beaucoup de temps en zone offensive, comme ils l'ont fait, je trouve, pas mal pendant la deuxième moitié du match.
Ben, tu dis que tout est lié, puis ça part, c'est ça, de la zone défensive, etc. J'aimais beaucoup chez le Canadien, à compter, je te dirais, du milieu de la 12e minute, je te dirais, de la première période, puis durant la grande majorité de la deuxième période, le fait que le Canadien limitait grandement le temps que passait le Lightning dans sa zone. C'était, il y avait plusieurs attaques du Lightning qui avortaient à la ligne bleue. Les Canadiens sortaient rapidement à la rondelle du territoire, puis ça repartait de l'autre côté. Puis j'ai cru voir à ce moment-là l'équipe, tu sais, qui était bien rodée, puis qui avait, tu sais, qui a mérité sa place en finale de cette manière-là, en laissant mourir, en faisant mourir les jeux de l'adversaire. Tu sais, on l'a vu tellement souvent contre les Golden Knights de Vegas. Et puis je pense que c'était encourageant de voir qu'il était. Les Canadiens ne se faisaient pas dominer, il était capable d'appliquer sa recette face au Lightning. Alors, je pense que ça a mis de l'eau au moulin dans la capacité du Canadien, justement, d'aller chercher des plus d'attaques, plus de lancers au filet. Mais il y a un gars sur lequel je voulais te entendre, par exemple, et justement, on va ça concerne la transition. C'est Jeff Petrie. Jeff Petrie, qui est, au point de vue statistique, si on regarde là, c'est présent sur la glace, justement, la quantité de temps ou la quantité de le volume de tentatives de lancer que le Canadien a tenté versus ce qu'il a accordé quand il était sur la glace.
31 à 9 à 55.
Alors, c'est impeccable de la part de Jeff Petrie.
20 à 6 tirs au but à 55. Ouais,
voilà.
Mais
dans quelle mesure c'est lui qui est la force motrice derrière ça? J'ai tellement l'impression que, tu sais, on le sait qu'il joue blessé, là, puis que c'est deux doigts disloqués, puis bon, le gant modifié et tout ça. On l'a vu dans les matchs précédents, dans les deux derniers matchs, je te dirais, dernier contre Vegas, premier contre Tampa, a recommencé à tirer avec un peu plus de vigueur, mais c'est clair qu'il n'est pas à 100% parce que c'est un gars qui change l'allure de l'allure de la relance du Canadien quand il est au sommet de ses capacités. Puis offensivement, je le cherche en ce moment, Jeff Petrie. Je me dis, lui, là, il pourrait tellement être un joueur d'impact puis être un gars qui change la donne pour le Canadien. Puis en ce moment, c'est pas qu'il joue mal, mais il y a un effet qui est vraiment diminué à l'heure actuelle. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Il joue pas à son potentiel, je dirais. C'est pas qu'il joue mal. Mais son plein potentiel, c'est un gars qui est capable de... qui est dynamique, le mot préféré de Dominique Ducharme. C'est un défenseur qui est dynamique avec la rondelle. Dynamique dans sa propre zone, dans sa façon de sortir de la zone, de faire sortir la rondelle de la zone. C'est souvent en faisant une bonne passe ou en le patinant lui-même pour sortir de la zone. C'est rarement qu'il utilise la baie vitrée pour sortir de la zone. C'est quelqu'un qui, quand il est à son mieux, il n'y a aucune hésitation dans son jeu. Puis là, ce que je vois dans lui, c'est qu'il y a... En fait, je vais corriger ça. Au premier, je dirais, pendant les premiers 30-40 minutes, premières deux périodes, ou même un peu moins que ça, il y avait de l'hésitation dans son jeu. Je trouvais pas certain à ce qu'il va faire. T'sais. Il y avait pas... Sa prise de décision était un peu plus lente que d'habitude. D'habitude, il n'hésite pas à prendre des décisions. Et souvent, la décision qu'il va prendre, c'est celui qui penche vers l'agressivité de se lancer en attaque. T'sais. Puis là, tu vois qu'il n'est pas trop certain quoi faire. Mais je trouvais que plus le match avançait, plus son niveau de confort commençait à se montrer. On voyait un peu plus, on voyait plus la rondelle sur son bâton en zone neutre. On voyait, à mon avis, en tout cas, moins d'hésitation le plus que le match avançait. Peut-être pas au plein potentiel de Jeff Petrie, mais une amélioration quand même. Définitivement comparé au match numéro 1, où je trouve qu'il y avait beaucoup de difficultés. Il n'était pas le seul, clairement, mais il y avait beaucoup de difficultés en premier match. Et en première période, c'est ça mon impression. J'ai partagé ton impression qu'il hésitait, qu'il n'était pas sûr de lui. Mais je trouvais que, rendu en troisième période, c'était plus similaire au Jeff Petrie qu'on est habitué de voir. Mm-hmm. Alors ça augure bien pour le Canadien si lui a cherché, s'il était capable de trouver un certain niveau de confort, un certain confiance en ses moyens, ou peu importe la raison pour laquelle il y avait cette hésitation-là, je trouve qu'il l'avait moins le plus que le match avançait.
Mais est-ce que tu penses que c'est pas non plus lié au fait que, vu que le Canadien tirait de l'arrière puis qu'il fallait absolument que les défenseurs prennent un peu plus de chance et ils s'engagent offensivement. Mais... de la même manière qu'on voyait davantage Gustafsson aussi en troisième période, c'est que Petrie avait cette responsabilité-là d'être justement celui qui allait appuyer l'attaque, être le quatrième homme. Puis, si, peut-être que le Canadien a tellement se méfie tellement d'ouvrir des... d'ouvrir la porte au Lightning que finalement, il va penser d'abord et avant tout à être étanche, puis ça va être la priorité de Petrie aussi, mais à partir du moment où il fallait ouvrir les vannes puis essayer d'attaquer davantage, on a peut-être vu le Petrie qui, offensivement, celui qu'on veut voir, tu sais.
Ben, tant mieux, parce que, et honnêtement, ça ne me surprendrait pas s'il pensait ça, parce que qu'est-ce que tout le monde, au niveau du Canadien, entre premier et deuxième match, il parlait de quoi? Il parlait de gestion de rondelle. Tout le temps. Gestion de rondelle, gestion de rondelle, gestion de rondelle. Ça. Écoute, c'est important la gestion de rondelle, c'est clair. Le premier match l'a démontré d'une façon quand même assez claire. T'avais pas besoin de trouver trop de raisons pourquoi les Canadiens avaient perdu le premier match. C'était gestion de rondelle. Mais quand on parle de gestion de rondelle, c'est un terme ou c'est un principe qui est à la base conservatrice. T'sais, c'est pas quelque chose que tu dis quand tu veux créer de l'attaque, quand tu veux montrer de la créativité, quand tu veux être agressif, c'est pas souvent que la gestion de rondelle soit primordiale dans cette stratégie-là. Alors, ça se peut que le fait que le Canadien tirait de l'arrière et que Jeff Petrie a senti qu'il y avait plus le feu vert de faire ce qu'il peut faire, peut-être ça a contribué, ou peut-être c'est dans sa tête à lui que personne... Parce que, honnêtement, je peux pas croire que les Canadiens vont voir Jeff Petrie et dire « Hey, Jeff, calme-toi un peu, là, c'est... on veut pas que tu patines trop avec la rondelle. » C'est pas vrai, c'est le seul gars du Canadien qui est capable de faire ça. Il a besoin de faire ça pour que le Canadien ait du succès. Mais dans sa propre tête à lui... Écoute, il faut pas oublier non plus, c'est la première fois que Jeff Petrie joue en finale de la Coupe Stanley. Tout le monde parle des jeunes, tout le monde peut parler de Nick Suzuki, Cole Caulfield, tout ce monde-là, Kotkaniemi qui était rendu ici pour la première fois, mais Jeff Petrie, c'est le cas pour lui, Shea Weber, Carey Price, il y a des vétérans, tu sais, Brendan Gallagher, Philippe Danault, Arthur Lekkinen, il y a beaucoup de noms qu'on peut ajouter à ce liste de monde-là qui jouent en finale de la Coupe Stanley pour la première fois, et on sait jamais comment chaque personne, chaque athlète va réagir à cette situation-là. Puis tout le monde a des pressions différentes dans la vie. On parle souvent que chez Weber, il n'y a pas beaucoup de temps pour gagner une coupe. Carey Price, il n'y a pas beaucoup de temps pour gagner une coupe. Mais Jeff Petrie non plus, il n'y a pas beaucoup de temps pour gagner une coupe. Alors ça se peut que dans le premier match, et peut-être pour commencer le deuxième, ça lui a pris un peu de temps pour réaliser que, écoute, on est en finale de la Coupe Stanley, oui, mais c'est quand même un match de hockey, puis il faut que je joue mon jeu, il faut que je joue au hockey comme je suis capable de faire. Alors peut-être en ayant cette deuxième moitié de match-là, peu importe la raison, si c'est à cause du fait que le Canadien avait besoin d'un but, oui, fort possible, mais peu importe, il a vu que s'il joue comme ça, il est capable de jouer comme ça, puis il ne va pas le mettre dans le trouble, tu sais, de ce moment-là du match jusqu'à la fin, le seul but qui est rentré, c'est à cause d'un petit bévu, un des seuls, entre autres, qu'on devrait le mentionner, un des seuls que Jordan Edmondson a connu depuis des mois, pour être honnête. Là. Mais c'est quand même, c'est un bévu qui était quand même un peu imprévisible, puis c'était pas nécessairement à cause... Et je pense que, honnêtement, Edmondson, il a pris beaucoup de blâme. Tu sais, ça se peut aussi que Jeff Petrie était supposé être là, qui est un peu mal placé sur le jeu. Et...
Peut-être aussi qu'il faut donner crédit à Palat pour son anticipation, puis ben, dire hey, je vais sauter dans le jeu, puis je vais m'interposer, me glisser entre les deux gars, tu sais.
Oui, mais oui, absolument. C'est clair aussi. Mais je pense que Edmondson n'est pas le genre de faire une passe comme ça s'il ne s'attend pas que son partenaire soit là. Puis alors, ça, c'est fort possible que Jeff Petrie est un peu trop éloigné sur ce jeu-là. Mais ceci étant dit, quand même, on voyait des flashs du vieux Jeff Petrie qui transportait la rondelle. Je trouve qu'en fin de match, après que le gardien a été retiré, il avait l'art du Jeff Petrie qu'on connaît. T'sais. Il faisait des feintes de tir, il faisait des passes, il était mobile, il était capable de faire ce qu'il est capable de faire d'habitude. Alors, s'il est capable de retenir ça pour le troisième match, et pas... Je sais pas pourquoi il jouait, pourquoi il hésitait autant qu'il faisait dans le premier match et le premier moitié du deuxième match, mais s'il peut retenir ça pour le troisième match et jouer comme ça dès le départ... Déjà là, le Canadien est en avance d'où il était pendant les deux premiers matchs.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
C'est drôle parce que hier, en écrivant, ben, tu sais, j'ai souvent une fenêtre Twitter qui est allumée, qui est ouverte sur mon ordinateur. Et durant le match, j'ai vu après le 4 contre 3 que le nom Romanov était devenu une tendance. Sur Twitter, hein, ça trendait. Puis là, je me suis dit, c'est tellement facile de... Tu sais, t'as pas besoin de lire les tweets, t'as juste besoin... Tu comprends la logique des gens. Les gens se disent, ben, si Gustafsson n'est pas pour aider le Canadien dans une situation comme le 4 contre 3, pourquoi ne pas utiliser Romanov? Je sais que ça devait être ça, la teneur d'un tas de tweets. Après le match, j'ai vu le nom de Tatar trender à Montréal. Je me suis dit, ah, le Canadien a encore marqué un seul but. Et les gens disent, où est-ce que le Canadien peut aller chercher de l'attaque dans le troisième match? Dommage Tatar!
Alors, ouais, c'est ça.
Alors, je te pose la question, en vue du troisième match, où est-ce que tu penses que le Canadien... Bon, tout à l'heure, tu m'as dit que l'équipe peut quand même capitaliser davantage sur le temps, sur les efforts des trios de Staal et Kotkaniemi en fond de territoire adverse, mais... Sinon, qu'est-ce que tu verrais comme façon que le Canadien peut réussir à déjouer Andrei Vasilevski plus souvent?
Ben, je pense que c'est... Ben, premièrement, il y a un certain aspect d'être au filet. Et c'est drôle, tu sais, c'est comme... Je l'ai remarqué après le premier match, mais c'est encore plus frappant après le deuxième match, à quel point le Lightning fait ce que le Canadien fait de bien, mais il le fait aussi bien. C'est se rendre au filet de Vasilevski contre cette brigade défensive-là n'est pas du tout évident. Là. C'est difficile pour le Canadien. Le seul gars qui réussit de le faire d'une façon assez constante, c'est Brendan Gallagher, parce qu'il s'en fout un peu de ce qui lui arrive. Là. C'est pas un gars normal. Mais à part ça, c'est tout l'aspect box-out devant ton propre filet, le Canadien aussi le fait bien, mais le Lightning le fait aussi bien qu'eux. Là. C'est honnêtement avec Hedman et Sergachev et Chernak, même Ruta qui est un gros bonhomme, Ryan McDonough qui est coriace et tough au plus haut point. C'est vraiment une groupe qui est comme très, très, très solide. Alors ça, c'est étape 1. Il faut se rendre au filet plus souvent et avec plus de monde. Écoute, le Canadien a marqué 2 buts dans cette série-là. Les deux fois, c'est dévié 2 fois contre 2 joueurs du Lightning avant de se rendre à Vasilevski. Ah oui. Mais la seule raison qu'il y a 2 joueurs du Lightning devant leur propre gardien, c'est parce qu'il y a des joueurs du Canadien qui sont là. Alors, ça, c'est important. Mais, tu sais, quand même, comme j'ai mentionné tantôt, le Canadien a quand même produit des chances sur le rush là, en première période. Ils l'ont fait à quelques reprises. C'était de moins en moins, le plus qu'un match avancé, parce que Lightning, comme le Canadien, sont une équipe qui est très bon à protéger une avance. Ils sont capables de fermer le jeu une fois qu'ils prennent l'avance, puis ils sont très confortables de jouer un match où ils ont une avance d'un but. Ça ne leur dérange pas du tout. Ils ont joué le 7e match contre les Islanders. Ils ont gardé 1-0, puis ils ont joué avec ce score-là pendant des longues périodes de ce match-là, puis ils sont très, très confortables à faire ça. Alors, les opportunités de produire de l'attaque off the rush ou en transition vont être quand même assez minimes, mais c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut continuer à essayer de faire, puis quand tu as ces chances-là, il faut vraiment capitaliser, c'est facile à dire. Tu sais, quand tu as une chance de marquer, marque le but. Ça, c'est bon coaching, hein? C'est comme, hey, quand t'as une chance de marquer, là.
Vas-y donc.
Pourquoi tu marques pas? C'est quoi le problème? Alors, c'est facile à dire, mais c'est la réalité des choses. C'est pour ça que le 4 contre 3 dans le deuxième match, c'est tellement frappant parce que t'as pas ces opportunités-là très souvent, puis tu peux pas te permettre de les gaspiller à cause des décisions qui sont sous ton contrôle. Tu sais, la chance de Toffoli. Il a fait le meilleur qu'il pouvait dans les circonstances, puis il a quand même réussi un bon tir. C'était un bon arrêt de Vasilevski. Suzuki, même chose, il a tenté quelque chose. Vasilevski l'a anticipé. bon jeu par le gardien, il faut lever le chapeau, mais c'est pour ça que le 4 contre 3, c'était dans le contrôle du Canadien, il était capable de quand même planifier quelque chose sur le coup, et ils ne l'ont pas fait. Alors, dans le troisième match, une chose, bien, il y a plusieurs choses que je trouve tournent vers l'avantage du Canadien, ou au moins donnent une certaine élan au Canadien. Premièrement, le retour de Dominique Ducharme. Faut dire, là, c'est pas banal. En fait, c'est très, très... c'est pas du tout commun qu'une équipe en plein milieu d'une série éliminatoire, tu sais, la finale de la Coupe Stanley, en plus de ça, que leur coach retourne en plein milieu d'une série. Alors là, j'aimerais voir à quel point ça peut avoir un impact sur le jeu du Canadien. En plus, ils vont avoir le contrôle des affrontements. Ils vont être capables de jouer le trio d'anneau contre le trio de pointe plus ou moins quand ils veulent. Mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses pourrait être l'impact du retour de Dominique Ducharme dans cette série-là?
Ben, tout d'abord, je pense que ça va être un impact qui va être plus grand que toute la question de la foule, si le Canadien avait pu accueillir 10 000 personnes plutôt que 10 500 plutôt que 3 500. Je pense que le Canadien a montré qu'il était capable, qu'il était à l'aise dans l'environnement du Centre Bell, qu'il n'y ait aucun spectateur ou 3 500 cette année. Il joue bien au Centre Bell, surtout en séries éliminatoires. Mais comme tu le dis, de pouvoir retrouver son entraîneur-chef, je pense que ça va faire une grosse différence. D'abord parce que c'était très incertain durant la saison régulière que les joueurs étaient en mesure d'appliquer ce que Dominique Ducharme leur demandait. Sauf que à partir du moment où il a eu suffisamment de temps pour installer, pour travailler avec eux et vraiment mettre en place ce qu'il attendait d'eux, leur faire comprendre de quelle manière ils pouvaient y arriver, puis vraiment fignoler les détails, tout s'est mis en place. Et à partir du moment où les joueurs voit les résultats positifs de ce que le coach demande, il y a un niveau de confiance qui est multiplié par 10. Et puis, je pense que ce niveau de confiance-là envers leur coach, maintenant, ils l'ont. Ils ont confiance en son message. Ils ont confiance au calme qu'il apporte également. Pas que Luke Richardson n'en a pas. C'est un gars qui est un petit peu fait dans le même moule. Je pense que c'est un très bon complément à Dominique Ducharme. Mais au niveau de... Je pense qu'un élément fondamental où je pense qu'il va y avoir une grosse différence, c'est au niveau de la façon dont tu gères le banc, de la manière dont tu gères qui t'envoie sur la glace à quel moment. Évidemment, ça aurait été probablement plus frappant à Tampa Bay parce que le Lightning avait le dernier changement, mais tu sais, Dominique Ducharme est capable d'anticiper ce qui s'en vient de l'autre côté, de réagir en fonction de ça, puis de dire, si je m'attends à ce que le Lightning envoie le trio de Stamkos sur la glace, je vais tout de suite envoyer tel trio à la place. Et puis essayer de se défaire, de s'éloigner des confrontations que l'équipe qui a le dernier changement veut imposer. Je trouve que le Canadien, ça a été sa plus grande lacune dans le premier match. Puis je pense que c'est veut pas, Luke Richardson, il y a peut-être une part du blâme à prendre là-dedans. Et peut-être qu'il y a des ajustements qui ont été apportés dans le deuxième match avec des conseils de Dominique Ducharme qui ont fait en sorte que ça a été un peu moins le cas dans le deuxième match. Sauf que de le retrouver là, derrière le banc, dans le troisième match, je pense que ça va faire une grosse différence. Et il y a un vieil adage qui dit que dans le hockey, tant que tu n'as pas perdu un match à domicile dans une série, tu n'es pas vraiment dans le trouble. Alors, je pense que le Canadien doit se raccrocher à ça puis se dire, on est de retour devant nos partisans, on a notre coach qui est de retour. Et qui, pour nous, ça va être comme l'équivalent de retrouver un joueur vedette. Et puis, on doit tabler là-dessus, puis se dire, bon, ben on va écouter ce qu'il y a à nous dire, puis on va s'assurer de maintenir notre confiance. Je pense que ça, c'est un autre élément, c'est que Dominique Ducharme a été bon pour leur vendre l'idée que c'est une équipe qui méritait d'être là, puis qui devait croire en ses moyens. Et puis, je pense que ça doit se faire ressentir dans le troisième match.
Oui. Là, pour revenir à ton point que le nom de Romanov était en train de trender sur Twitter pendant que tu écrivais hier soir.
Ouais.
Je pense qu'on est rendu à un point où de mettre Romanov dans l'action serait comme... Ce serait quasiment... injuste. Ce serait de le mettre dans une situation où il est vraiment... Il n'est pas tout fait pour qu'il ait du succès. Il a joué tellement peu depuis 2 mois. Mais en même temps, ça serait vraiment le wild card ultime là, que le Canadien pourrait lancer dans leur alignement. Je trouve que John Merrill, il joue quand même correct. Il joue pas mauvais. Il joue pas beaucoup de minutes, mais il joue correct. Il fait pas beaucoup d'erreurs. Il n'a pas un impact sur le match. D'une façon ou l'autre. Là, c'est comme, il est là. Il n'a pas un impact négatif ni positif. Avec Romanov, tu as le potentiel des deux impacts. Puis, ils sont quasiment kiff-kiff. C'est 50-50 que tu peux avoir l'un comme l'autre. Là. Et c'est ça que le Canadien n'aime pas dans son jeu en ce moment, c'est que c'est imprévisible des fois. Il a tendance à courir après des jeux qui ne sont pas là. Et c'est cette imprévisibilité qu'en séries éliminatoires peut te coûter un but. Et un but, comme on a vu dans le deuxième match, peut faire toute la différence. Effectivement, Ben Sherratt a fait quelque chose d'un peu imprévisible sur ce jeu-là, puis finalement, c'est dans ton filet, puis c'est le but gagnant. Alors, toutes ces erreurs-là sont évidemment amplifiées en finale de la Coupe Stanley, en série éliminatoire en général, mais définitivement en finale de la Coupe Stanley avec tout le monde de hockey qui regarde. Mais il y a quand même ce potentiel d'avoir un impact positif aussi. Là. Alors, tu sais, mais il y a une différence entre ce que moi je ferais et sur ce que le Canadien, eux, ils feraient. Je pense que ça me surprendrait vraiment s'ils inséraient Romanov dans l'alignement pour Merrill. Mais mon point, c'est que ça surprendrait aussi le Lightning, je pense. Parce que je pense que le Lightning aussi ne s'attend pas à voir ce gars-là. Mais en fin de compte, même s'il surprend le Lightning, et même si Romanov rentre, et même si Romanov joue super bien, ce serait quoi vraiment l'impact sur le succès du Canadien? Parce que même s'il joue, il jouerait quoi? 10, 12 minutes peut-être? C'est pas quelque chose qui va changer la donne nécessairement pour le Canadien, à mon avis. Ça serait intéressant, comme s'il y a une balle courbe là, qu'il lance au Lightning un peu, rendu là. Mais ça me surprendrait vraiment, vraiment qu'on le voit. Puis honnêtement, il y a Brett Kulak aussi qui est là. Et entre les deux, si tu veux une option qui est moins imprévisible que l'autre, ce serait probablement Kulak au-dessus de Romanov en termes d'imprévisibilité.
Ouais.
Ben, Ou de prévisibilité.
De prévisibilité. Je pense pas que si le Canadien décidait d'utiliser Romanov, que ça prendrait le Lightning de court de quelconque façon. Le problème en ce moment, c'est que si tu veux donner un quelconque répit à ton top 4, si tu dis, OK, peut-être que si on est capable de donner 2 minutes de moins à Sherratt dans un match, quoi que ce soit, en ce moment, tu n'as aucun joueur, d'après le niveau de confiance que les entraîneurs ont affiché envers leur brigade défensive depuis le début des séries, il n'y a aucun joueur qui peut véritablement s'imposer puis augmenter son nombre de minutes pour s'approcher là, de la fenêtre de 18 à 20. Puis de devenir un cinquième défenseur solide. Et on l'a vu en saison régulière, il y a des matchs rares, mais il y a eu des matchs où Kulak l'a fait. En deuxième moitié de saison, Romanov l'a fait très souvent, mais il était clairement le sixième défenseur dans les deux matchs qu'il a joué. Kulak, même chose. Et je pense que ton point est excellent quand tu dis que une seule erreur peut tout changer. Si tu vises un match parfait, un match sans bavure, je pense que le Canadien a plus à perdre en le mettant dans l'alignement, en risquant justement une erreur de la part de Romanov ou même de Kulak, que de garder Merrill qui est complètement beige, qui est juste là, qui ne sert pas à grand-chose, mais il te sert à une affaire, par exemple, il te sert à pas faire d'erreur. Alors, si c'est des minutes qu'il te donne à t'assurer qu'il ne commet pas de revirement ou qu'il ouvre pas la porte au Lightning, ben c'est pas beaucoup de minutes, mais c'est déjà ça. C'est plate de penser comme ça, mais je pense que dans la situation dans laquelle le Canadien se trouve, probablement que le gars qui pourrait prendre plus de minutes dans le lot, c'est Romanov, mais plus tu vas lui donner de minutes, plus il y a la chance qu'il fasse la petite bévue que tu veux pas qu'il fasse contre le Lightning. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on va avoir du statu quo en défense.
Ben oui. Puis le rôle de Merrill, c'est effectivement pour donner du repos. C'est un gars qui est là pour que les top 4, un des top 4, reçoit un peu plus de repos. C'est vraiment sa seule rôle. C'est que pendant ces minutes-là que tu offres un repos à un, à, en fait, à, aux trois des quatre joueurs du top 4, dans les 10, 12, 8, whatever minutes, juste fais pas d'erreur. Et juste rends-nous aux prochaines présences où on va avoir deux membres de notre top 4 encore. Puis c'est là qu'on peut faire quelque chose. Mais pendant que tu es là, fais pas grand-chose. Puis il y avait un moment dans le, il y avait un moment dans le match 2 où, à un moment donné, je me rappelle pas c'était quel trio d'attaquants, mais Merrill s'est retrouvé en plein milieu de l'enclave. Il a reçu une bonne passe. Il avait l'opportunité de tirer. Il y avait de l'espace. Et il a quand même réussi à trouver une jambe du Lightning quand il y avait vraiment beaucoup d'espace dans le filet, là. Puis je me suis dit, waouh, si c'était pas mal n'importe qui sauf Merrill dans cette situation-là, peut-être que ça aurait pu être quelque chose, mais je le blâme pas parce que c'est, il est pas là pour ça. Il est là pour offrir un repos pendant ces minutes-là. Puis honnêtement, il faut dire, il fait bien son travail. Si c'est ça son mandat, il le remplit parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe d'habitude quand il est sur la glace. Puis c'est ça que je pense que le Canadien demande de lui.
Dernière petite observation, puis je sais qu'on passe beaucoup de temps sur un gars qui finalement, on dit, ne fait pas une grande différence, mais c'est juste parce que le clin d'œil m'apparaît trop intéressant. Le Canadien affronte le Lightning de Tampa Bay en finale, et du côté de Tampa, un des analystes qui est affecté à la couverture du Lightning, c'est l'ancien défenseur du Canadien Brian Engblom, qui était là à la fin des années 70 et au début des années 80. Puis quand les Canadiens ont remporté leur dernière Coupe Stanley de leur dynastie des années 70, celle de 78-79, Engblom faisait partie de cette brigade défensive-là. Puis à l'époque, le Canadien jouait à quatre défenseurs, comme il le fait en ce moment. C'est-à-dire, évidemment, tu avais ton Big Three, tu avais Robinson, Savard et Lapointe. Le quatrième défenseur, c'était un jeune Rod Langway qui prenait un peu moins de minutes, mais tu voyais que c'est celui qui allait de plus en plus s'imposer. Puis tu avais des cinquième et sixième défenseurs, puis Engblom était le Merrill de l'époque. Fait que, je sais pas, alors, tu sais, c'est intéressant parce qu'on retrouve la façon dont le Canadien gère ses minutes en ce moment. C'est vrai que c'est comparable à ce que d'autres brigades défensives faisaient en séries éliminatoires il y a quelques années, puis on a écrit à ce sujet-là, on parlait des Blackhawks de Chicago il y a quelques années, entre autres. Mais ça renvoie aussi à la bonne vieille époque où le Canadien jouait à 3-4 défenseurs et qu'il y avait des miettes pour le troisième duo. Mais là, aujourd'hui, ben, Merrill, c'est le Brian Engblom d'autrefois.
Ouais. Bon, ben, Brian Engblom doit apprécier le spectacle, alors, j'imagine. Ouais,
c'est ça.
Écoute, je voulais terminer sur le point où qui a pris beaucoup de place pendant le match, ou tout début du match. Moi, j'étais au Centre Bell pour écouter le match avec les 3500 spectateurs qui étaient sur place. Il y avait quand même une ambiance assez intéressante, c'était cool. Le monde était dedans, c'était vraiment comme... c'était bien meilleur que regarder le match dans ton salon, c'est sûr. Mais au tout début du match, les Canadiens annonçaient évidemment que leur demande d'augmenter l'assistance au match 3 et 4 à 10 500 personnes a été rejeté par la Santé publique du Québec, puis que ça serait désormais 3 500 personnes qui vont avoir accès aux matchs 3 et 4. Ça a été... Il y a beaucoup de monde qui ont hué cette nouvelle-là quand Renaud Lavoie de TVA l'a annoncé à l'écran géant. Pas mal tout le monde a donné leur désaccord, le monde qui était sur place. Il y a John Cooper... il y a John Cooper... Qui a lancé le campagne quasiment en termes de demander qu'il y ait plus de monde au Centre Bell. C'est un gars qui trouve que c'est son aréna préféré dans toute la ligue. Il adore l'histoire. Il adore le fait qu'il a coaché ses premières séries éliminatoires dans cet édifice-là. Il faut le dire, il aime la ville aussi. Il aime ça, la rue Crescent, c'est pas qu'il ait jamais visité la rue Crescent à Montréal déjà. Alors, c'est quelque chose, c'est une ville, c'est une ambiance qu'il apprécie. La décision de la santé publique, évidemment, il y a plein de monde qui sont d'accord avec ça, il y a plein de monde qui sont en désaccord. J'aimerais t'entendre sur la notion qu'avoir 7000 personnes de plus dans Centre Bell allait aider le Canadien de Montréal d'une quelconque façon. Est-ce que tu crois en ça ou non?
Je pense que c'est l'ambiance. Les joueurs de hockey adorent le hockey. Ils adorent jouer et ils adorent sentir que le moment est important. La foule contribue à valider le fait que le moment qu'ils vivent, les matchs auxquels ils participent sont importants. Et ils ajoutent à l'atmosphère. Mais est-ce que cette atmosphère-là est nécessairement au service de l'équipe locale? Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Parce que à partir du moment où il y a de la... Par exemple, il y a du mauvais arbitrage. On a abondamment parlé dans la ronde précédente. Il y a du mauvais arbitrage. La foule eut une mauvaise décision, une pénalité qui n'a pas été appelée ou une mauvaise pénalité qui a été décernée aux Canadiens. Ça eut abondamment. Ça manifeste son mécontentement. Veux pas, il y a... Ça fait en sorte que le Canadien, les joueurs du Canadien peuvent avoir la mèche plus courte ou devenir plus rapidement frustrés parce qu'il y a une symbiose avec leurs partisans. Si les partisans sont frustrés, ils l'expriment, les joueurs peuvent l'être également. S'il y a de l'impatience par rapport au fait que ton 4 contre 3 n'est pas capable de générer de la menace et qu'il y a quelqu'un qui se met à huer, puis que les huées, prennent le dessus, puis Dieu sait qu'il y en a eu au fil des ans des huées contre le Canadien, bien, ça fait en sorte que les joueurs tiennent leur bâton un peu plus serré. Tu sais, ça peut vraiment aller des deux côtés. Cela étant dit, début du match, quand ça commence, les joueurs sautent sur la glace, il y a 21 000 spectateurs dans le Centre Bell, c'est bruyant, il n'y a rien qui bat ça. Et je pense que c'est cette adrénaline-là que les joueurs recherchent. C'est le kick de départ. Une fois que le match est commencé, par exemple, à mon avis, c'est, pour reprendre les mots de Shakespeare, c'est beaucoup de bruit pour rien, je crois.
Oui, mais ce kick-là, ça s'applique aux deux équipes. Là. Honnêtement, là, le kick du début du match, là, oui, le Canadien, il l'entend dans le vestiaire, ça leur pompe, ils sont prêts, mais on l'a vu tellement de fois que l'ambiance se sent belle, aide à motiver l'équipe adverse aussi. Là. Puis je pense que c'est un peu ça mon point, c'est que écoute, personne ne peut dire que ça serait moins plate avec 10 500 personnes qu'avec 3 500 personnes. Ça, c'est clair. C'est le triple. Ça serait à 50 % de capacité, ça serait encore mieux, puis ça serait juste une reconnaissance à quel point c'est rare, cet événement-là. Une reconnaissance que On est en train de s'en sortir de cette pandémie-là, là, aussi au Québec, un peu partout en Amérique du Nord au moins. Je comprends qu'il y a qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec le variant Delta, puis il y a beaucoup de risques qui est attaché à ça, puis de démontrer un peu plus de prudence qu'on démontre en Floride, à Las Vegas, à d'autres places aux États-Unis, est probablement la bonne chose à faire. Je trouve ça intéressant que les Canadiens avaient proposé un compromis parce que l'étude, ou en tout cas la recommandation qu'ils sont allés chercher du docteur Benoît Mars de l'École de la santé publique à l'Université de Montréal, sa recommandation, c'était salle comble. Et les Canadiens n'ont pas demandé salle comble, ils ont demandé 50 %. Alors, c'était quand même une certaine reconnaissance de leur part que, OK, on comprend que salle comble, il n'y aura aucune chance, peut-être ça pourrait se faire. Voici comment on va le faire. Et comme on avait écrit dans notre calepin, c'est que je pense que l'idée est revenue au fait qu'on ne peut pas faire exception pour le Canadien. Le Canadien ne peut pas avoir des règles qui sont uniques à eux, pendant que tout le reste du Québec a des règles qui sont uniques à eux. Et je trouve ça dommage, parce que c'est clair que l'engouement pour le Canadien en ce moment a un effet quand même assez bénéfique aux sociétés. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu beaucoup d'engouement pour quoi que ce soit depuis si longtemps. Et c'est une opportunité de le faire, mais en même temps, je comprends, je pense, le point de vue du département de santé publique du Québec, je comprends. C'est supposé être impartial, c'est supposé être objectif et appliquer les règles également partout, puis c'est un principe que je supporte en principe, comme je dis. Mais des fois, il faut faire... Je pense qu'il faut trouver des compromis dans des situations exceptionnelles. Puis ça, ça en était un. Puis je trouvais que le Canadien avait quand même fait ce compromis-là en faisant leur proposition de 50% de capacité quand un argument pourrait être fait, comme ils ont présenté avec la lettre du Dr. Mars, qu'ils pourraient même faire salle comble au Centre Bell. Mais je trouve ça dommage parce que je me rappelle très bien le regard sur tes yeux. Tu m'as regardé à un moment donné pendant le match 6 contre Vegas, puis tu as tourné vers moi, tu dis, imagine, il y avait 21 000 personnes ici, là, puis j'étais comme, ouais. Et ça rend le tout un peu... Si ça le rend... Il y a comme un côté négatif à tout ce qui se passe avec le Canadien, le succès qu'il connaît, c'est que tu as tout le temps cette petite notion de regret derrière tout, que imagine ces salles combles, imagine l'atmosphère, imagine comment ça serait bruyant, imagine on n'aurait jamais entendu quelque chose comme ça, les joueurs non plus, les partisans non plus.
C'est ça qui a vendu.
C'est une opportunité ratée. Là.
C'est ça qui a vendu Jeff Petrie au Canadien. L'atmosphère des séries de l'année où il est arrivé avec le Canadien, après avoir été échangé, c'est wow, c'est de vivre les séries à Montréal. OK, c'est quelque chose de différent. Puis on a toujours en tête le fameux sixième match contre les Capitals de Washington en 2010, où le match de Yaroslav Halak où le toit du Centre Bell a failli s'envoler. Ça fait partie de l'identité du marché de Montréal. Oui, c'est un marché qui est difficile, des partisans qui sont bipolaires, puis que j'aime pas le terme, là, mais bon, c'est galvaudé. Puis, tu sais, des médias qui sont omniprésents, etc., on peut dire un paquet d'affaires, sauf que ce qui définit aussi le marché de Montréal, c'est ce bruit-là, c'est cette ambiance-là dans les matchs importants. Puis je pense que c'est clair que ça va avoir manqué dans ces séries éliminatoires-là. Parce que je te disais, je veux apporter un bémol par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, en disant que la foule peut aller d'un côté comme de l'autre. Hier, Nick Suzuki a marqué un but qui a ramené le match à 1-1 en marquant 6 minutes après, grosso modo, là, 6 minutes après que Anthony Cirelli ait ouvert la marque. Si ce match-là a lieu au Centre Bell, la foule, après le but de Nick Suzuki, aurait peut-être été en mesure de générer un momentum suffisant pour faire en sorte que le Canadien continue d'appliquer encore plus de pression sur le Lightning et fasse en sorte que et soulève l'équipe pour aller marquer un but. C'est un cliché de dire ça, là. Et ça n'arrive probablement pas souvent, mais si ça devait arriver une seule fois, c'est peut-être un but qui ferait la différence. T'sais. Alors, je pense que l'aspect momentum, il est pas non plus complètement absent là-dedans. T'sais. Et je vais terminer avec ceci, c'est que tu fais bien de mentionner que c'est une décision de la santé publique parce que les gens font souvent un amalgame en disant ben, le gouvernement Legault, la santé publique. Il faut être très clair que depuis le début, François Legault, il aurait voulu que le Centre Bell soit plein. Là. C'est un fan fini des Canadiens, puis lui, des exceptions, des entourloupettes, du deux poids, deux mesures. Écoute, il aurait trouvé quelque chose, un accommodement raisonnable pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde au Centre Bell. Malheureusement, en bout de ligne, ce n'est pas lui qui a eu la décision finale, c'est une autorité indépendante qui s'appelle la santé publique. Et eux autres, ont décidé de dire ben, on ne peut pas faire de passe-droit et puis permettre un événement selon les calculs auxquels on est rendu en termes épidémiologiques et aussi de ce qu'on permet à la foule ou à la communauté de faire en ce moment. Et l'autre affaire, c'est que je sais que tout le monde va dire « Ouais, mais là, il va y avoir 10 000 personnes autour du Centre Bell quand même, et ça va être plus dangereux. » Possiblement, mais sauf qu'en même temps, ces rassemblements-là sont tolérés par tout le monde parce que tu ne veux pas avoir non plus la police qui débarque, du monde qui se dit « Dispersé, vous êtes trop, puis gna 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 », parce qu'on n'est pas dans un état totalitaire non plus. Là. Alors, ça demeure aussi le libre choix de chacun de pouvoir circuler. Il faudrait sinon imposer un couvre-feu, puis il n'y en a plus de couvre-feu. Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. C'est très délicat au point de vue social, au point de vue politique, puis disons-le, au point de vue hockey aussi. Je trouve ça vraiment décevant. Mais écoute, je pense que le Canadien va devoir passer par-dessus puis se dire que cette énergie-là qu'il n'aura pas, il l'a trouvée jusqu'à maintenant par lui-même pour se rendre jusque-là. Ben, il faut qu'il continue de le trouver d'ici la fin de la finale.
Oui, effectivement. Alors, on va laisser ça comme ça. Il va quand même avoir 3500 personnes dans l'édifice vendredi soir au Centre Bell pour le match numéro 3. Un match qui est vraiment rendu un match sans lendemain, quasiment, pour le Canadien. Il faut qu'il gagne. Alors, on verra les ajustements qu'il pourrait faire. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à ajuster du deuxième match, mais j'ai hâte de voir Dominique Duchamp derrière le banc encore. Je trouve ça vraiment malheureux qu'il ait dû passer ces deux semaines-là après avoir été atteint par la COVID au pire moment possible pour lui. Alors, j'ai hâte qu'il vit ça, qu'il vit cette expérience-là d'être un entraîneur dans la finale de la Coupe Stanley, mais on verra si le Canadien peut bâtir sur ce qu'ils nous ont montré au deuxième match, où ils ont montré vraiment des bons signes, mais souvent, quand une équipe joue un match comme ça, puis le perd, souvent, ça mène à quelque chose, un résultat un peu différent dans le prochain match. Alors, on verra ce que ça donne, mais je pense que les signes que le Canadien ont montrés dans le deuxième match augurent bien pour leur chance au troisième match vendredi.
Ben, souhaitons-le. Alors, écoutez, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique, comme toujours. C'est toujours agréable de savoir que vous nous écoutez. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à Athlétique et que vous ne lisez pas les textes que Harpin et moi et tant d'autres de nos collègues écrivent, particulièrement au moment de la finale où tous les yeux sont braqués sur Montréal, ben, on vous invite à le faire. Vous pouvez aller au athlétique.com/superathlétique pour profiter d'un rabais sur votre première année d'abonnement. Donc, c'est athlétique.com/superathlétique pour avoir un rabais sur votre première année d'abonnement. Et puis nous, ben, on vous retrouve après le quatrième match de la série, donc après les deux rencontres à Montréal. Et ça va être notre épisode en anglais du Athletic Support. Alors, merci Harpin. À bientôt.
Salut tout le monde.